franceinter.fr.
Et voici le journal avec Laurent Grelet. Bonjour Laurent.
Bonjour. Il était l'un des derniers de ce qu'on appelle les monstres du cinéma et du théâtre français. Claude Riche est mort hier soir à 88 ans. Claude Riche qui disait vivre chaque pièce comme si c'était la dernière quitte la scène, vaincu par un cancer. Une page spéciale évidemment consacrée à Claude Riche dans ce 13h. Le Front National qui fait son examen de conscience, 2 jours de séminaire pour le parti de Marine Le Pen, qui en perd un peu ses repères. Un nouveau nom et l'abandon du rêve d'un retour au franc vont être débattus à Nanterre. On ira sur place dans ce journal. Quand le mastodonte Live Nation trust l'industrie du live, une société mondiale capable de recruter U2 ou les Stones comme de vulgaires prestataires de services, inquiétude dans le monde de la musique live. On en parle avec l'invité du 13h, Jean-Christophe Aplincourt, directeur du 106. En revenant des montagnes, le Tour de France redescend dans la vallée. Les coureurs attendus à Salon et dimanche à Paris avec un Christopher Froome qui sera difficile à déloger de la plus haute marche du podium. Le temps, bonjour Élodie Callac.
Bonjour à tous.
De Météo France. Le ciel encore nuageux.
Et oui, des orages même entre les Pyrénées et les régions de l'Est. Ils seront nombreux, parfois forts, entre le Massif central, l'intérieur de la Provence, les Alpes, le sud de l'Alsace. Les plages du Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur restent à l'écart tout de même. De la côte aquitaine au nord-ouest, beaucoup de nuages. On peut même avoir une averse, des averses orageuses sur la Bretagne avec du vent. Et puis il reste du soleil entre le centre, la région parisienne et le nord de la Seine.
Quelques températures.
Un peu juste à l'ouest, plus estival sur les régions de l'Est. 17 degrés à Brest, 23 à Étretat, La Rochelle, 24 à Montauban, 26 pour Paris et Nevers. Il fera 29 degrés à Nancy, à Lyon ou à Bastia et jusqu'à 31 degrés à Marseille.
Élodie Callac de Météo France, merci.
France Inter.
Il se voyait comme un survivant. Claude Riche est mort hier soir à 88 ans. Un acteur riche d'une filmographie qui en faisait effectivement l'un des derniers survivants de la grande époque, aux côtés des Truffaut, Chabrol ou Audiard. En 63, il joue le gendre de Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs.
Le nom de Dieu, mais où faut-il s'expatrier, mon Dieu, pour avoir la paix? Au Groenland, à la Terre de Feu, je l'ai touché l'anti-accord absolu. Vous entendez? Absolu! La musique des sphères. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe?
Claude Riche, vous venez de l'entendre, c'était une voix suave et un regard pétillant. Gardera de lui ce visage espiègle et une palette de jeux particulièrement variée, Corinne Pellissier.
Il a souvent joué au cinéma les seconds rôles, mais tout le monde se souvient de son allure élégante, de ses yeux ronds et de ce petit sourire en coin qui ne le quittait jamais. Claude Riche, l'espiègle, jouant son propre rôle dans le film de Bertrand Blier, Les Acteurs, sorti en 2000 en forme de clin d'œil aux grandes voix du cinéma français.
Vous permettez que je vous donne le bras?
Laissez mon bras tranquille.
S'il vous plaît, madame, j'ai envie de faire quelque chose de bien. J'ai le cœur gonflé par le printemps.
Vous parlez comme Claude Riche.
Ah oui, oui, on me le dit de plus en plus souvent. Surtout quand je suis gay.
Moi, j'aimais bien Claude Riche.
Oui, moi aussi.
C'était un acteur fin.
Oui, oui, et en même temps, on sentait bien qu'il y avait quelque chose en lui de dangereux. Une envie de nuire derrière le sourire.
Voilà, Claude Riche, plus de 80 films à son actif, du Crabe Tambour au Tonton Flingueur, en passant par Astérix ou Le Souper, qui lui vaudra un César en 93. Aussi à l'aise dans les comédies que dans les films policiers, les drames sociaux, Claude Riche affectionnait surtout les rôles historiques, les grands personnages, Mazarin, Talleyrand, Léon Blum ou le général Leclerc, qu'il aura incarné tantôt à l'écran, tantôt au théâtre, car c'est sur les planches que le comédien avait démarré sa carrière à 17 ans. Inscrit au Cours du Soir alors qu'il travaillait dans une banque pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses 4 enfants. Une véritable révélation. Il aura joué dans plus de 50 pièces. Parmi ses grands succès, Le Souper, Le Caïman et Le Diable Rouge en 2008, dans lequel il jouait Mazarin pour Antoine Roux, qui lui rend hommage.
J'apprends maintenant sa mort et je suis très triste parce que c'est un homme qui était aussi un ami et un peu comme mon père de théâtre. Je lui dois tout. Il m'a permis de débuter comme auteur de théâtre et un comédien infiniment perfectionniste. Et qui était absolument fascinant à voir travailler, à voir répéter, le voir naître à un personnage, parfois dans la douleur, parfois on riait beaucoup avec lui. Chaque représentation était pour lui un défi. Il jouait jamais de la même façon. Il progressait tout le temps. Il se remettait tout le temps en question. C'était vraiment un maître du théâtre français, quoi. Il avait cet œil extrêmement malicieux qui s'allumait comme ça. Et oui, c'était un comédien qui vous enrichissait profondément.
Claude Riche ne regrettait qu'une seule chose, n'avoir pas accepté le rôle d'Alain Delon dans le film La Piscine de Jacques Jacques Deray en 69. Il ne se voyait pas jouer en maillot de bain. Il aura joué au cinéma avec les plus grands réalisateurs, Michel Audiard, Claude Chabrol, Georges Lautner, François Truffaut, Jean-Pierre Mocky et Pascal Bonitzer. Il avait tourné avec lui l'un de ses derniers films en 2012, Chercher Hortense, aux côtés de Jean-Pierre Bacri, dans lequel il jouait le rôle d'un homosexuel.
Le tournage a été vraiment très très agréable et c'est un acteur admirable, subtil, mystérieux d'ailleurs, et c'est très bien entendu avec Jean-Pierre Bacri qui joue son fils dans le film. Le film est une comédie, mais pas seulement une comédie. Il fallait qu'il soit à la fois drôle, mais en même temps qu'il laisse apercevoir une fêlure ou quelque chose d'un petit peu plus sombre. Et le personnage est double et il excellait à donner ce registre ambigu. À la fois une sorte de cynisme et une distance avec lui-même. Enfin, il était parfait pour jouer ce personnage. J'étais absolument ravi de sa performance, de son jeu et de ce que ça a donné. Enfin, je crois que c'est parmi les choses les meilleures du film.
Vous avez encore de cette admirable, admirable glace au thé vert.
Notre glace au thé vert, Mathieu. Bien sûr, monsieur le président. Ah,
bien, alors, je vais prendre cette délicieuse glace au thé vert, matcha, et ce sera mon dessert.
Tu es gay ? Pardon ?
Voilà, un rôle qui lui avait valu une dernière nomination au César, donc en 2012.
Merci à vous, Corinne Pellissier, pour France Inter, Claude Riche, et un plaisir qui ne l'a jamais quitté, donc celui de jouer. Je continue de m'amuser, affirmait-il, il y a encore peu de temps, Claude Riche, qui disparaît donc à 88 ans. Quand le Front National fait face à son avenir, séminaire de réflexion pour le parti de Marine Le Pen réuni à Nanterre 2 jours pour faire l'examen de l'état du FN après les défaites à la présidentielle et aux législatives. Changer de nom, reculer sur la question du retour au franc, tout est sur la table pour le FN, avec en prime un joli bras de fer en perspective entre la ligne Philippot et celle de Marine Le Pen à Nanterre pour France Inter, Christine Moncla.
La ligne directe Philippot-Le Pen est coupée, alors il vient gratter à la porte. Avec ses mots, un cadre du FN résume la situation de Florian Philippot, numéro 2 du parti qui a perdu ses galons de favori en quelques semaines après la présidentielle. Alors dans sa contribution pour ce séminaire qu'il a laissé filtrer en amont, Philippot prend soin de défendre la présidente du Front là où elle a justement été très attaquée en interne sur son débat raté de l'entre-deux-tours. Ne faisons pas de ce débat un bouc émissaire, plaide-t-il dans sa lettre. C'est tout aussi crucial pour lui-même puisque derrière cet épisode, il y a la question de l'euro qui a fait trébucher la candidate du FN. Mais droit dans ses idées, l'ex-chevènementiste soutient sa ligne, ni droite ni gauche, social-souverainiste, en beaucoup de points semblables aux idées de Marine Le Pen. Depuis le mois de mai, elle lui a plusieurs fois montré la porte, mais il est resté. Elle a sanctionné quelques-uns de ses proches, mais elle ne l'a pas renvoyé. C'est qu'au fond, il reste très utile, le meilleur atout pour nouer des alliances avec des Dupont-Aignan ou des élus de droite, une direction que Marine Le Pen veut justement donner à ce Front National refondé qu'elle appelle de ses voeux.
Christine Moncla, séminaire du FN, donc jusqu'à dimanche à Nanterre avant une consultation, et c'est une première des adhérents frontistes au mois de septembre. Eux continuent de voir leurs illusions partir en fumée, ce sont les buralistes qui manifestent un peu partout en France contre un paquet de cigarettes programmé à 10 euros, et ce sont les radars qui en font les frais de ce coup de tabac, action notamment à Brive en Corrèze, reportage de Nicolas Blanza.
Allez, 22h15 dans les environs de Brive, une équipe passe à l'action, masque blanc sur le visage, t-shirt orange à la couleur de leur syndicat. Ils bâchent ce radar avec un sac poubelle noir, un coup de scotch et laissent une affiche avec un message.
Disons la vérité aux Français, pour atteindre l'équilibre dans la dépense publique, on leur fait les poches, non au paquet de cigarettes à 10 euros. Clients spoliés, buralistes menacés.
Alors pourquoi ce mode d'action ?
L'État vient taper dans nos caisses.
Frédéric Vergne, le président de la Chambre des buralistes en Corrèze, argumente.
Nuire à nos commerces et à nos investissements. Donc, mais nous, on a décidé directement de taper également dans les caisses de l'État.
Et le paquet à 10 euros, c'est non.
Il faut absolument réprimander tous ceux qui ramènent du tabac de l'étranger et de l'Union européenne tant qu'il n'y a pas une égalité sur les prix.
Car selon eux, plus de 27% du tabac actuellement fumé en France vient du marché parallèle.
Ils achètent sur Internet, ils vont dans les pays voisins où le paquet non seulement est moins cher, mais en plus de ça, où ils retrouvent leur marque.
Ils mettent aussi dans la balance la survie de leur activité.
Avec un paquet à 10 euros, c'est la mort de nos commerces et la mort aussi pour nos familles, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons souvent des entreprises dans lesquelles on travaille en couple, donc il est hors de question qu'on laisse l'État nous ruiner comme il est en train de le faire et comme il a envie de le faire.
Sur les 170 buralistes de la Corrèze, l'activité serait déjà très périlleuse pour 10% d'entre eux.
Et le projet de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, c'est donc de porter à 10 euros le prix du paquet d'ici 3 ans, annonce faite, et qui dénonce les manifestants sans aucune concertation. Les salariés de GMES pourraient lever le camp ce soir. Depuis mardi, les salariés de l'équipementier bloquent l'accès à la plateforme Renault-Villeroy dans l'Yonne. 3 jours de blocage et 180 camions livrant des pièces détachées qui ne peuvent ni entrer ni sortir du site. Invité d'Inter, ce matin, le secrétaire général de la CGT encourageait les manifestants à rester sur place.
Il faut arrêter de souffler le chaud et le froid entre Peugeot, Renault, le ministre de l'économie Le Maire qui un coup dit blanc, un coup dit noir, un coup PSA dit on n'investit plus. Eux, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la galère. Moi, c'est une usine que je connais très bien, j'y étais 4 ou 5 fois. Il y a un vrai savoir-faire, il y a des gens qui savent travailler. Ce qu'ils veulent, c'est des commandes et une pérennité. Donc ça dépend des deux constructeurs, d'autres constructeurs, du repreneur qui est souvent absent des discussions et d'un ministre qui tape un peu du poing sur la table. Quand il s'agit de Renault et Peugeot, il a les moyens de taper même plus fort sur la table parce que l'État est actionnaire de ces deux groupes. Quand ils ont besoin d'argent, on discute moins longtemps. Je vous renvoie à ce qu'avait décidé le précédent gouvernement pour PSA. Donc quand ces grands groupes-là ont besoin d'argent, ça dure beaucoup moins longtemps que quand il s'agit de l'avenir de près de 300 salariés.
Philippe Martinez, dans la matinale d'Inter, le tribunal de commerce de Poitiers doit se déterminer lundi sur l'avenir des GMES. Ça fait longtemps que le centre humanitaire d'accueil installé Porte de la Chapelle à Paris porte plutôt mal son nom. Une 34e évacuation du camp sauvage qui n'en finit jamais de grossir, organisée au début du mois. Et la visite ce matin de Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui est allé à la rencontre des réfugiés. C'est un reportage Porte de la Chapelle d'Edouard Marguier.
Jacques Toubon est venu avec plein de questions à leur poser.
Vous parlez français ?
Vous êtes tous de la même famille ? Vous êtes tous du même endroit, du même village ?
Je crois qu'il est important que le défenseur des droits lui-même se rende compte des choses et surtout voit les êtres humains sur le terrain.
Il s'est donc vite aperçu que le centre humanitaire d'accueil, avec ses 400 places, ne parvient pas à absorber les 50 personnes qui arrivent quotidiennement à Paris. Ils sont donc un demi-millier à dormir dehors autour de la Porte de la Chapelle, des nouveaux et d'autres de retour après l'évacuation d'il y a 15 jours ici même. Certains migrants en colère ont interpellé le défenseur des droits.
Oui, l'aide.
Nous avons besoin d'aide pour ne pas dormir ici, dit Mohamed qui arrive d'Irak. Il y a beaucoup de problèmes. La plupart des gens arrivent d'Italie, de Vintimille. Jacques Toubon regrette cette situation. L'une des solutions pour l'éviter, selon lui, est de créer d'autres centres d'accueil comme celui qu'il a visité justement tout à l'heure à Paris.
Le centre d'accueil de la Chapelle est un exemple de ce qu'il faudrait faire, peut-être dans 5, dans 10 ou dans 15 endroits en France, pour réaliser cet accueil.
Il déplore que l'État n'en fasse pas la proposition dans son dernier plan migrant, un plan qui prévoit la création de 7500 places d'hébergement d'ici 2019. Porte de la Chapelle à Paris, Jean-André Giannichini, Edouard Marguier, France Inter.
Le séisme a secoué l'un des paradis du tourisme en mer Égée entre la Grèce et la Turquie. Un tremblement de terre d'une magnitude comprise entre 6 et 6,9 degrés selon les instituts. Séisme qui a surtout coûté la vie à 2 touristes à Kos. Correspondance d'Angélique Cournis pour France Inter.
La vie reprend son cours à Kos malgré les petites secousses qui continuent et les touristes paniqués, quelques dizaines qui écourtent leurs vacances au grand désespoir des hôteliers de l'île. Les blessés les plus graves ont été évacués par hélicoptère sur la crête Hérode. L'aéroport et les routes de Kos sont ouvertes, mais le port de l'île est gravement endommagé, il reste fermé. Les ferries sont donc détournées sur l'île de Kalymnos, juste en face, à moins d'une heure de temps. Les deux victimes ont été identifiées. Il s'agit de 2 touristes, un Turc et un Suédois, surpris par les secousses au moment où ils faisaient la fête dans le centre-ville. Plusieurs bâtiments ont été touchés, une église a été gravement endommagée, les vieilles maisons du centre historique fissurées et le minaret de la mosquée centrale s'est écroulé. Des équipes d'ingénieurs sont dépêchées sur place pour déterminer quels sont les bâtiments devant être démolis, car trop dangereux. Ce tremblement de terre a été ressenti sur toutes les îles du Dodécanèse qui font face à la Turquie, Kalymnos, Rhodes, Psérimos, Karpathos, mais pour l'instant, aucune victime ni dégâts matériels n'ont été rapportés. Thessalonique, Angélique Cournis pour France Inter.
Des prières du vendredi sous très haute sécurité à Jérusalem. Israël craint une journée de tension dans la ville sainte. Des détecteurs de métaux ont été installés à l'entrée de l'esplanade des mosquées. Tension extrême depuis la mort il y a une semaine de 2 policiers israéliens tués par des Arabes israéliens. L'été, c'est évidemment la période des festivals, mais dans ce concert de douces mélodies, il y a une grosse dissonance. Une multinationale du festival qui écrase tout sur son passage, c'est Live Nation. Un groupe assez solide pour recruter U2, Madonna ou encore Jay-Z. Un tourneur mondial qui attire la lumière et fait évidemment de l'ombre aux autres festivals plus modestes. Témoin, l'affiche de Lollapalooza, demain et dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. The Weeknd, les Red Hot Chili Peppers ou encore Lana Del Rey ont répondu présent aux sirènes sonnantes et trébuchantes de Live Nation. Bonjour Jean-Christophe Aplincourt.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du 106 et vous avez aussi présidé le festival Rock dans tous ses états à Évreux. Festival qui a dû mettre la clé sous la porte, faute justement de moyens et de subventions après 33 ans d'existence. Est-ce que les moyens colossaux de Live Nation n'étouffent pas finalement aujourd'hui toute la concurrence ?
Alors, je pense que c'est des phénomènes qui sont longs, c'est-à-dire que ça s'impose un peu dans la durée, mais effectivement, je pense que ces concentrations ont le pouvoir d'imposer des choses, c'est-à-dire des exclusivités sur les artistes, des cachets renforcés, et des prix de billetterie plus élevés.
Donc difficile dans ces conditions d'être un festival de moyenne gamme au niveau de financier évidemment et de survivre dans le sillage de Live Nation.
Disons que ça crée un contexte qui est plus concurrentiel. Après je pense que malgré tout, les festivals sur l'ensemble du territoire français sont nombreux et répartis sur l'ensemble de la carte. Je pense que effectivement, enfin, en tout cas, si on prend l'exemple du festival Main Square à Arras, on peut dire que ça a été un festival qui a amené une forme de conservatisme et de standardisation de la musique, c'est-à-dire que c'est pas des festivals qui sont porteurs d'une grande diversité culturelle, c'est des festivals qui portent pas non plus beaucoup d'innovation. Donc ça, voilà, ces festivals-là portent un message particulier et transforment la perception de la musique dans la société française.
Alors on le disait, Live Nation, c'est les grosses pointures mondiales de la pop avec les Stones, Shakira, Lady Gaga, U2, ça veut dire des cachets, vous l'avez déjà un peu dit, qui flambent littéralement. C'est des 300 à 700 000 euros pour faire venir les stars.
Oui, oui, ça atteint des niveaux qui sont assez inédits, en tout cas dans la musique telle qu'on l'avait travaillée en Europe jusqu'à présent, oui.
Alors comment on répond à cette situation, Jean-Christophe Aplincourt ? Comment on répond peut-être collectivement pour dire qu'il y a une autre voie ? Ou alors est-ce que la solution, hélas, c'est aussi de créer d'autres mastodontes pour contrer Live Nation ?
Ben, je pense que là, il y a une résistance qui doit être exercée au niveau de la... Enfin, en tout cas, le modèle français qui a été développé depuis 30 ans sur les musiques actuelles, il a été construit différemment. C'est-à-dire avec... on n'est pas dans une société aussi libérale que les États-Unis ou l'Angleterre. On a une société où il y a une intervention publique et que cette intervention publique, elle produit de la diversité culturelle, de la représentation de l'ensemble de la population. Par exemple, là, je pense que dans les programmations telles que Main Square, les artistes viennent des États-Unis, d'Angleterre, éventuellement un peu d'Europe, mais ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire que le périmètre, il est quand même assez fixé au niveau mondial. Alors que je dirais que d'autres festivals, enfin le festival dont je m'occupe maintenant qui s'appelle Rush à Rouen ou des festivals comme les Transmusicales de Rennes, travaillent sur une unité de l'humanité, sur un message différent qui est celui de dire de plein d'endroits des choses innovantes peuvent arriver et il faut qu'on les valorise et qu'on construise des choses autour de ça.
Merci Jean-Christophe Aplincourt, directeur du 106, d'être venu nous parler. Ça n'est pas si facile du mastodonte qui est devenu Live Nation dans ce 13 heures d'Inter.
Merci.
Tenez, un exemple de festival local qui ne craint pas la concurrence des grands groupes. 200 000 personnes attendues jusqu'à dimanche en Bourgogne pour Chalon dans la rue. Il faut dire que ce rendez-vous fourmi de création, 16 compagnies s'y sont donné rendez-vous cette année. Isabelle Pasquier, le théâtre pointe aussi des sujets qui fâchent.
À Châlons, quand le théâtre descend dans la rue et s'empare de l'espace public, il est ludique, poétique, subversif, voire dérangeant. La compagnie Les Arts aux Heures met en scène une page noire de l'histoire, un sujet encore tabou, les femmes tondues après la guerre. Une dramaturgie qui met le public en totale immersion, au milieu de protagonistes de l'histoire de Lily, une femme tondue sur la place publique.
Il pleuvait ce jour-là. Elles étaient toutes assises sur la place de l'église. 13, il y en avait, oui. 13 femmes. Autour d'elles, un va-et-vient frénétique, un défilé de virilité mal fini, comme des mouches qui s'acharnaient sur un tas de viande.
Pour les tondues, on déambule dans le quartier de Lily, avec sa meilleure amie et son petit-fils. Perrine Fèvre signe cette création aussi audacieuse que bouleversante.
Je suis une grande fan de la création d'espace public et je me suis posé cette question, qu'est-ce qui s'est passé dans nos rues dans les 100 dernières années? Et ça m'a, mais je ne voyais plus que ça, c'est devenu une obsession. Mais comment c'est possible que 20 000 femmes aient été tondues, rasées sur les places publiques devant des millions de personnes et que je n'en sache quasiment rien et que rien n'ait été dit sur la question?
Et au-delà de toute morale, les tondues interrogent aussi nos silences, notre indifférence sur l'histoire en train de s'écrire aujourd'hui. À Châlons dans la rue, Isabelle Pasquier, France Inter.
Mais Châlons dans la rue, c'est jusqu'à dimanche soir. Le Tour de France et les coureurs qui quittent la montagne et les Alpes aujourd'hui pour arriver à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Fanny Lechevestrier. Et cette 19e étape est la plus longue du Tour, hein.
Oui, effectivement, 222,5 km à parcourir aujourd'hui. Et je peux vous dire que le peloton, les 168 coureurs restants, puisqu'il y a déjà eu un abandon ce matin, le Tchèque Andrej Sink qui a dû quitter la course dès les premiers kilomètres. Cette étape longue, après les deux étapes alpestres, va faire mal aux jambes dès la première petite difficulté du jour. Une côte de troisième catégorie, 4,7 km hein, seulement à gravir. Après les deux étapes alpestres, ça paraît rien. Et pourtant, il y a énormément de coureurs distancés à l'arrière. Il y a devant des échappés qui tentent de se former pour aller gagner cette étape, hein, la dernière accessible au Baroudeur. Alors pour l'instant, il y a 20 coureurs en tête, dont les Français Élie Gébert, le benjamin de l'épreuve, et Lilian Calmejane, vainqueur aux Rousses. Mais pour l'instant, l'écart reste à faire encore avec le peloton maillot jaune de Chris Froome, alors qu'on va aborder la deuxième difficulté du jour, la côte de Brézier classée en troisième catégorie. Attention, les équipes de sprinteurs vont batailler aussi pour arriver à Salon de Provence en tête et se disputer le sprint. Mais il y a pas mal de sprinteurs distancés pour le moment.
Fanny Lechevestrier en direct sur la moto de Marcos Darras.